Bonjour à tous. Depuis très jeune, j'ai eu des parents chrétiens qui ont été missionnaires, même au bagne, en Guyane, et qui m'ont raconté la puissance de Dieu pour changer des gens qui étaient perdus. Et je crois que ça m'a beaucoup encouragé dans la foi. Et j'ai appris à connaître Dieu tout au long de ma vie. Dieu nous fait passer parfois aussi par des épreuves pour nous consoler, pour qu'après on puisse aussi consoler les autres. Mon épouse qui est ici, il y a 35 ans maintenant, avait une espérance de vie d'un an. Et par la grâce de Dieu, après bien des péripéties, elle est toujours là, elle va bien. Et on remercie le Seigneur pour cela. Et Dieu nous fait passer par des épreuves aussi dans notre vie. Si vous lisez la vie de tous les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont tous eu des difficultés dans leur vie. Et on va essayer de parler de ce problème, de l'épreuve, de la souffrance autant physique que la souffrance mental ou social ou spirituel, il y a toutes sortes de niveaux de... Et moi, dans ma pratique de médecin généraliste, j'ai quitté la faculté en 73, j'ai vu beaucoup de souffrances, j'ai vu beaucoup de gens déprimés, j'ai vu beaucoup de gens dans des maladies ou à des stades terminales. J'ai été médecin aussi où j'allais deux après-midi par semaine à la prison à Belfort, et là aussi j'ai vu beaucoup de gens dans la détresse. Donc je suis marié depuis 1972, on a eu deux filles, et on a maintenant trois petites filles, et même une quatrième, peut-être pas une petite fille, ça peut être un petit garçon, on ne sait pas encore, qui est en route. Alors juste ces quelques mots, mais tout au long de ce week-end, je partagerai avec vous des témoignages pour vous dire un peu ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu se révèle à nous comme un sauveur, il veut être le Seigneur de notre vie, il se révèle comme un consolateur qui nous aide dans les tempêtes de la vie, comme un père. Vous savez, beaucoup de gens ont une certaine théologie intellectuelle dans leur tête, mais dans leur cœur, ils n'ont pas compris. Pour recevoir le Sauveur, il faut réaliser qu'on est perdu. Pour être consolé, il faut être assez humble pour se laisser consoler. Il faut réaliser dans notre cœur que Dieu est notre Père, notre Papa, qu'il nous aime. Il y a bien des gens qui disent Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais ce sont des mots vides de sens. Est-ce que vous réalisez que le Créateur de l'univers, le Créateur de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, celui qui a créé la vie, qui a créé les océans, il veut être notre ami, il veut être notre Père. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je vais aborder ce thème avec beaucoup d'humilité, parce que je ne prétends pas avoir la science de tous les mystères, et le mal est un mystère d'après la Bible. Mais Dieu peut nous révéler quelque chose, il peut nous aider à voir plus clair et prendre nos responsabilités. Une chose est sûre, c'est qu'à l'origine, le monde était parfait. Et qu'à cause du péché, à cause de Satan, le mal est entré dans le monde. Une chose est sûre, c'est qu'il y a Satan qui désire faire souffrir, et qu'il y a un Dieu qui nous aime vraiment, un Dieu qui veut le meilleur pour chacun de nous. Et au rétablissement de toutes choses, dans la nouvelle Jérusalem, la Bible dit qu'il n'y aura plus de souffrance. Ça, c'est une espérance extraordinaire. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs. C'est ce que nous dit la Bible dans l'Apocalypse. Et Dieu ne répond pas toujours à toutes nos questions. Job a voulu poser des tas de questions à Job, à Dieu, mais Dieu n'a pas répondu à ses questions. Mais il s'est révélé à lui. Et c'est ce dont nous avons besoin, de la présence de Dieu, que Dieu se révèle. Aucune philosophie ou religion en dehors du Dieu de la Bible ne nous donnera des solutions satisfaisantes aux problèmes de la souffrance et du mal. Pour Platon et le naturalisme grec, il voit le pécheur comme un malade. Un désordre physique est toujours à l'origine d'un désordre moral. Pour les juifs, ou en tout cas pour certains juifs, c'était souvent le contraire. C'est le malade avait dû pécher quelque part. Mais ce n'est pas aussi l'enseignement de Job. Jésus fait une différence entre cette relation obligatoire, hein, quand il parle de la tour de Siloé qui est tombée. Il dit, ces hommes sur qui la tour de Siloé est tombée n'étaient pas plus pécheurs que les autres. L'aveugle né dans Jean 6, il dit, il n'était pas plus pécheur que les autres, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste dans cette situation. Et si vous, vous ne vous repentez pas, vous allez tous périr de la sorte. Alors nous avons vraiment besoin de beaucoup d'humilité pour ne pas juger trop vite les personnes qui passent par l'épreuve. Il y a bien des pourquoi qui s'élèvent. Ce matin, dans nos lectures journalières, j'ai lu le psaume 88 qui dit « Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face ?» On se sent oublié de Dieu. Et Jésus lui-même, dans Matthieu 27, lors de la mort de Jésus-Christ, a prononcé ces paroles, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi, si Dieu est juste, si Dieu est aimant, comme on le dit, s'il est tout-puissant, pourquoi ne supprime-t-il pas le mal et ne rétablit-il pas la justice immédiatement ?» La Bible nous dit qu'il va le faire un jour, mais qu'il patiente pour que le plus grand nombre soit sauvé. Si Dieu supprimait le mal, alors je crois que plus aucun d'entre nous ne serions là. La Bible dit « tous ont péché, tous sont loin de la sainteté de Dieu ». Si Dieu supprimait le mal, il détruirait toute chose et le monde. Il permet le mal, mais il en est affligé. Et il a accepté par amour le risque de la liberté de l'homme, et donc du péché et de la souffrance. Il en a pris la responsabilité, il a porté lui-même le péché sur la croix. L'homme est libre d'obéir ou de désobéir à Dieu. L'amour véritable suppose la liberté. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Dieu ne nous force pas à aimer. Il nous force pas à lui obéir. Il nous dit, il se tient à la porte de nos cœurs, il frappe, et si quelqu'un entend sa voix, qu'il ouvre la porte, il entrera et il soupera avec lui, et lui avec nous. La souffrance montre la patience de Dieu. Elle montre la justice. Et en même temps, la justice et la miséricorde de Dieu, en hébreu, c'est le mot tzedek, la justice qui est indissociable de l'amour. Soit nous sommes trop justes et nous manquons d'amour, soit nous sommes trop aimants et nous manquons de justice. Mais Dieu est parfaitement juste et parfaitement amour. Et Dieu avertit les hommes au travers des jugements, au travers des catastrophes. Par exemple, le nom de Mathusalem dans la Genèse, il a vécu 969 ans, son nom signifie « le jour où je mourrai, le déluge viendra ». Son nom montrait la patience de Dieu. Il était un avertissement, un instrument de la miséricorde de Dieu. Les plaies d'Égypte furent un message crescendo pour les Égyptiens de l'époque. Il les avertit par leur propre Dieu, par le Nil, par les grenouilles qu'ils adoraient. Et le message final, c'est une prophétie de la mort du Fils unique. Du Fils unique, c'est une prophétie de la mort de Jésus. L'Apocalypse aussi avertit de destruction toujours plus grande jusqu'à la catastrophe finale qui est la séparation éternelle de Dieu et que Dieu voudrait éviter aux hommes. Son message, c'est cesser de faire ce que vous faites et croyez à la révélation de Jésus-Christ, le Sauveur, Jésus. C'est ce que signifie le nom Apocalypse. C'est un terme qui fait peur, mais ça veut dire révélation. Révélation de Jésus-Christ. Alors, retenons déjà un peu cela dans notre tête comme un axiome. La souffrance et l'adversité ne sont pas en contradiction avec le fait de l'amour de Dieu. Dieu est tout-puissant et il est amour. Il agit pour notre bien. Si vous relisiez le texte qui parle de la croix, je crois que ça serait peut-être bien qu'on le lise ensemble. La mort de Jésus, quelques versets dans Matthieu 27, verset 45, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Dieu montre sa puissance pour que la terre s'obscurcisse. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli, et aussi l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. On voit la puissance de Dieu. La croix, ce n'est pas seulement la faiblesse de Dieu, il y a aussi la puissance de Dieu. Et écoutez la suite. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Dieu montre la puissance de la résurrection déjà lors de la crucifixion. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Dieu a montré sa puissance lors de la croix. Il a montré son amour en venant mourir à notre place. Il a montré sa justice, il a payé pour le péché. Dieu manifeste sa puissance et son amour. Alors, un autre aspect de la souffrance, c'est que personne n'est épargné par la souffrance. Nous sommes tous solidaires d'un monde qui soupire après sa restauration. Il est important d'accepter notre condition humaine. Dans nos vies, il y a des tempêtes dont nous sommes victimes. On n'est pas responsable de toutes les pollutions personnellement. On n'est pas responsable de tous les choix de société. Des choix de nos parents même. On n'est pas responsable de notre hérédité. On a hérité un corps avec des infirmités. Le corps est semé infirme, dit l'apôtre Paul, mais il ressuscitera incorruptible, plein de gloire, plein de force. Il y a des choses dont nous sommes victimes dans notre condition humaine et il y a des choses dont nous sommes responsables. Il y a des choix personnels qui vont nous conduire à des problèmes. Il y a des erreurs qui sont faites au niveau de l'hygiène. Ça, c'est un peu ma thèse de médecine que j'ai présentée à la fin de mes études. Et les professeurs étaient assez surpris. Il y avait des protestants, des catholiques, des juifs et ils ont tous été étonnés de voir combien la Bible était actuelle dans le domaine de l'hygiène, de l'alimentation, de la sexualité. Il y a même un vieux professeur qui a dit qu'il avait fait des pèlerinages jusqu'à Jérusalem, qu'il cherchait la vérité, et qu'en lisant cette thèse, il avait mieux compris ce qu'était le péché, et qu'il plaidait coupable, qu'il reconnaissait qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et il a dit, je vais mettre cette thèse de médecine à côté de mon dictionnaire Vidal, le dictionnaire des médicaments, pour me rappeler que l'homme ne vit pas de médicaments seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a aussi des gens qui cherchent parmi les professeurs, parmi le monde d'aujourd'hui, parmi les Français qui sont tellement rationalistes. Donc il y a des souffrances dont nous sommes victimes, et il y a des souffrances dont nous sommes responsables. Les apôtres qui traversaient le lac ont eu la tempête, mais Jésus était avec eux dans la barque. Et il a pu les aider, les secourir. Et puis Jonas, il était aussi dans la désobéissance à Dieu, et il y a eu la tempête dans sa vie. Mais Dieu a aussi pu lui tendre la main. Dans la parabole de Matthieu 7, la tempête touche le sage, et elle touche celui qui est fou. Hein. Vous savez, la pluie est venue, les torrents sont venus, et celui qui a construit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur Christ, la maison va résister, et celui qui a construit sur du sable, la maison va s'écrouler. En Occident, les personnes sont souvent individualistes, égoïstes. Elles ont de la peine à comprendre que sur cette planète, nous sommes tous solidaires. Les tsunamis, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles touchent les croyants et les non-croyants. Mais dans ces circonstances, les hommes se rapprochent aussi souvent les uns des autres et montrent des élans de solidarité, de générosité qui retombent souvent trop vite. Nous devons accepter aussi que le fait que les chrétiens ne sont pas exempts de tous les maux ordinaires qui affligent l'humanité. Vous verrez la tempête avec l'apôtre Paul dans les Actes, au chapitre 27. Un ange est venu lui parler, mais malgré tout, son bateau a fait naufrage. Malgré tout, il dit dans d'autres passages qu'il a été un jour et une nuit dans l'abîme. Il devait être en hypothermie, hein. Ça devait être difficile. Alors la souffrance, elle peut être due au péché, mais pas toujours. Elle est plus ou moins. Il y a des péchés personnels, il y a des péchés collectifs aussi, hein, qui peuvent produire des souffrances. Et c'est une grâce de Dieu aussi lorsque nous désobéissons aux règles de Dieu. C'est un avertissement de l'amour de Dieu. C'est comme une sonnette d'alarme pour nous aider à nous repentir, pour nous aider à changer de comportement. J'ai vu beaucoup de gens révoltés contre la souffrance et la maladie. Et j'ai vu très peu de gens révoltés contre leur péché. Le péché est cependant beaucoup plus grave aux yeux de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il lui résiste. Et nous mettons souvent du temps à comprendre cela. L'apôtre Paul, dans les Romains, au chapitre 2, dit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal ». Il est parlé dans la Bible que Dieu peut nous livrer au bourreau, qui est l'image de Satan. Et dans ces cas-là, la solution, c'est la repentance, la foi, c'est chercher Dieu. Dans les Chroniques, il est dit « Au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel ». Jonas s'est repenti dans la tempête et Dieu l'a sauvé. Il est dit « Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris ». Dieu dit dans les psaumes « Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit ». Le péché sous ses diverses formes et l'œuvre des puissances des ténèbres sont à l'origine de la maladie, de la souffrance et de la mort. Dieu souffre avec l'homme et il voudrait le libérer des sources du mal. Qu'est-ce qui se passerait dans un monde rebelle et pécheur s'il n'y avait plus de souffrance ? mais nous devons aussi comprendre qu'il n'y a pas toujours une relation de cause à effet directe entre l'adversité et le péché. La souffrance n'est pas toujours due à un péché personnel. Il ne faut pas devenir comme les amis de Job qui étaient des consolateurs fâcheux. Alors, il y a différentes manières de réagir à la souffrance, à la détresse des autres. On peut fuir, comme Jonas qui a voulu fuir la souffrance qu'il y avait à Ninive. Il a fui vers Tarsis, où on peut être indifférent, essayer d'être indifférent. Et dans les Actes, au chapitre 18, il est parlé d'un homme qui s'appelait Gallion, et il est dit « Tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Gallion s'en mette en peine. » Il y a parfois des autorités politiques qui sont indifférentes à la souffrance du peuple. Et je dirais qu'une autre manière, c'est de réagir avec compassion et avec responsabilité, comme Jésus. Quand il voyait la foule et les malades, la Bible dit qu'il était ému de compassion et qu'il guérissait les malades. Il y a des gens qui parlent de laisser mourir les gens dans la dignité, mais la compassion de Jésus, ce n'était pas une compassion pour faire mourir, c'était une compassion qui donne la vie. L'attitude devant notre propre souffrance, c'est aussi un équilibre entre l'acceptation de la réalité, l'acceptation de notre condition humaine, de nos limites, et l'acceptation aussi de la souveraineté de Dieu, et aussi une lutte spirituelle contre le péché, le mal, contre Satan, avec les armes de Dieu, parce qu'on peut se battre avec les armes humaines. Les armes charnelles sont diaboliques parfois. Mais les armes de Dieu sont des armes qui peuvent apporter la délivrance. La foi, c'est une arme de Dieu. La foi, elle n'est pas à notre service, ce n'est pas de l'autosuggestion. La foi, elle est au service de Dieu. Je crois qu'on peut guérir par la foi. Nous avons expérimenté aussi la délivrance de Dieu dans notre vie. Mais il y a un équilibre entre l'enseignement, je dirais, sur la guérison divine que Dieu guérit, et il y a aussi un enseignement sur la souffrance que Dieu nous façonne, nous enseigne, nous apprend des choses à travers la souffrance. Dieu est souverain. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Nous devons apprendre à voir comme Dieu voit. Apprendre à voir Dieu tel qu'il est. Hein? Il voudrait être Dieu dans notre vie. Et souvent, c'est nous qui voudrions être Dieu. C'est nous qui voudrions lui dire ce qu'il doit faire dans notre vie. Nous avons été créés à son image et c'est pas lui qui a été créé à la nôtre. Si nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, sur nos intérêts, nous risquons de devenir Dieu nous-mêmes. Et il ne faut pas confondre la prière qui insiste, centrée sur l'honneur et la gloire de Dieu, et la mendicité centrée sur nous-mêmes. Quand il est question de l'onction d'huile, je pense à cela maintenant dans l'épître de Jacques pour les malades, c'est une image aussi, parce que tout ce qui était au service de Dieu était oint d'huile. Tous les objets du tabernacle, les sacrificateurs, ils recevaient du sang et de l'huile. C'est l'image de Jésus-Christ. Nous sommes au service de Dieu. Si Dieu nous guérit, c'est pour que nous puissions être à son service, c'est pas pour vivre une vie égoïste centrée sur nous-mêmes. La souffrance, on va le voir tout au long de cette journée, elle touche bien des domaines de notre vie, elle touche le domaine physique. Je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure en parlant de ma thèse. Il y a des lois très précises sur l'hygiène qui peuvent nous protéger, et c'est ce qu'a découvert par exemple Semmelweis quand il a découvert qu'il fallait se laver les mains dans sa clinique en 1840 à Vienne, à son époque, une femme sur 3 ou sur 6, selon les statistiques, mourait dans les suites de couches dans les hôpitaux, parce qu'on transmettait des microbes parce qu'on ne se lavait pas les mains pour examiner les femmes qui venaient d'accoucher. Et lorsqu'il a retrouvé les lois de la Bible de se laver les mains après avoir touché un mort, parce que les étudiants faisaient des dissections, puis après ils allaient examiner des femmes qui avaient accouché, et une femme sur 3 mourait de septicémie, et après avoir demandé à ses étudiants de se laver les mains, une femme sur 84 seulement mourait. Vous voyez comme un petit détail physique peut jouer sur la santé, sur l'alimentation. Il y a plein de choses, mais je ne veux pas vous parler de cela aujourd'hui, sur les abus des graisses qui étaient offertes déjà en sacrifice à Dieu, les abus de viande qui étaient offertes en sacrifice, certains animaux seulement étaient consommables, pour éviter trop de consommation de viande. Ils étaient offerts en sacrifice dans certains lieux pour limiter aussi la consommation. La Bible parle de l'alcool, elle parle de la circoncision, il y a des lois très intéressantes sur la stérilité, même la stérilité quand il y a dans un couple des relations sexuelles trop fréquentes pendant les périodes de règles. C'est une période où la femme était impure, entre guillemets, hein. C'est pas impur dans le sens moral, mais elle ne pouvait pas avoir de relation. Il y a un risque de passage de sperme dans le sang de la femme, et la femme fabrique des anticorps spécifiques contre son mari. Donc vous voyez, la souffrance, elle touche tous les niveaux, mais la Bible ne donne pas des recettes. Elle donne surtout des grands conseils de prévention. La souffrance, elle existe au niveau psychique, ça nous en reparlerons tout à l'heure. Au niveau spirituel, le sentiment d'absence d'un Dieu qui nous aime, le sentiment d'absence de sens à notre vie, d'absurdité, les séductions spirituelles, la sécheresse spirituelle, l'oppression, le mal, les persécutions, tout ça c'est des souffrances spirituelles. On peut vivre cette souffrance sans Christ. Et Pascal disait que dans tout homme il y a un grand vide qui a la forme de Dieu et que Dieu seul peut remplir. Et Dieu remplit ce vide par la nouvelle naissance, parce qu'il nous justifie, nous avons la paix avec lui. Et il y a des souffrances, je dirais, spirituelles sans Christ, et il y a aussi des souffrances spirituelles avec Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous passons par des moments de ténèbres, nous ne devons pas oublier ce que nous avons appris dans la lumière. Les apôtres, à l'heure de la croix, Jésus leur avait parlé de la résurrection. Mais ils avaient tout oublié, semble-t-il. Hein? Les disciples d'Emmaüs, ils se posaient des questions. Ils se posaient des questions sur les promesses de Dieu. Beaucoup de disciples marchaient dans l'éloignement. Nous devons voir les choses dans la perspective de Pâques, lorsque nous sommes dans les ténèbres. Et les disciples ont connu aussi des persécutions. Et la souffrance pour Christ les rapprochait encore davantage de celui qu'ils aimaient. Et quelques années de souffrance ne peuvent être comparées à une éternité de joie, à une relation avec Dieu. Je pense à Étienne, lorsqu'il était lapidé, il a vu Jésus debout et il a prié comme son maître, « Seigneur, ne leur impute pas leur péché. » Il a rendu l'esprit. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ connaîtront des persécutions. Cela nous coûte parfois de vivre dans ce monde déchu et rebelle, mais rappelons-nous que cela a coûté encore plus cher à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Gardons aussi à l'esprit que ce monde n'est pas notre maison. Nous passons simplement dans ce monde. Jésus a promis des persécutions, mais il a promis la joie, même dans les persécutions. Et l'obéissance, la communion aux souffrances de Christ vont de pair avec la puissance de la résurrection. Alors, je pourrais encore développer bien des choses concernant les serviteurs de Dieu qui ont connu des épreuves dans leur vie. Vous connaissez certainement l'histoire de Joseph qui a été rejeté par ses frères, qui a été jeté dans une citerne. Il a été emprisonné injustement parce qu'il voulait rester fidèle à Dieu. Et chaque fois que Dieu humilie, c'est pour nous élever un peu plus loin. Et il a été élevé au rang de premier ministre, il a pu sauver ses frères, il a pu sauver l'Égypte et le peuple d'Israël. Vous pouvez voir Moïse qui, lui, a été pendant 40 ans dans le désert, où il a dû désapprendre tout ce qu'il avait appris à la cour de Pharaon et qu'il devienne un libérateur pour le peuple d'Israël. Vous voyez l'histoire d'Élie qui a connu aussi bien des épreuves, bien des souffrances, des combats. Et il était aussi parfois fatigué, découragé, déprimé, et il demandait même la mort. Néhémie, qui reconstruit les murailles, était aussi, a connu toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de combats, mais il les a affrontés. Et puis vous avez l'histoire de David aussi, avec toutes ses tentations, ses échecs, et comment ces psaumes commencent des fois par la révolte et se terminent dans une louange à Dieu. On pourrait multiplier en parlant de Daniel dans la fosse aux lions, des amis de Daniel dans la fournaise. Il y avait un quatrième homme qui était avec eux, c'était Jésus-Christ qui était là au milieu d'eux. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 29, vous verrez toutes les épreuves que l'apôtre Paul a connu. Il est dit qu'il a été battu 40 coups moins 1, 5 fois, qu'il a fait 3 fois naufrage, qu'il a été un jour et une nuit dans l'abîme, qu'il est en prison, qu'il a connu les jeûnes multipliés. Et je parlais tout à l'heure du naufrage qu'il a connu dans Actes chapitre 27. Et puis, sans parler de la vie de Jésus-Christ, la vie de beaucoup de disciples de Christ ont fini torturés, persécutés. Donc la souffrance, Dieu la connaît, et les enfants de Dieu la connaissent aussi. Alors on peut aussi se demander pourquoi les innocents souffrent. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes solidaires dans la souffrance. C'est une loi de la nature, et les innocents paient parfois pour les erreurs des coupables. Ils souffrent des injustices. Et on pourrait parler des souffrances de ceux qui vivent dans les guerres. La souffrance des innocents, je crois que de manière prophétique, elle nous rappelle un petit peu le message de la croix. C'est un innocent, le seul juste que la terre ait connu, qui a souffert pour les injustes et qui a porté la condamnation du monde entier. Le prix du péché est élevé et il doit être payé. Jésus est venu pour payer le prix du péché. Et si cette souffrance est inévitable, j'aimerais insister sur quelque chose. L'important, c'est aussi de la gérer et de la soulager. Il est parlé une seule fois de la loi de Jésus-Christ. C'est dans Galates chapitre 6 verset 2. Parce que la loi, on voit plutôt ça avec l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il est dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Nous avons été créés pour vivre ensemble, chacun dans son rôle, chacun à sa place, et même les membres les plus faibles ont leur importance, c'est ce que dit l'apôtre Paul. dans l'Église et dans la société aussi, nous avons été créés pour vivre ensemble. Nous avons été créés aussi pour ressembler à Christ. C'est lui qui est l'image parfaite de Dieu, l'image visible du Dieu invisible. Et comme lui, nous sommes appelés à vivre et à incarner l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dans Philippiens dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Dans Jean 20, il dit « Comme le Père m'a envoyé pour aimer le monde, pour sauver le monde, pour aider les malades, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Celui qui n'aime pas, dit Jean, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est souvent à travers les épreuves que nous apprenons à nous encourager, à nous aimer les uns les autres. Cet amour de Dieu en nous, c'est un amour qui n'est pas égoïste, qui ne cherche pas son intérêt. C'est un amour centré sur Christ, un amour prêt à perdre sa propre vie et qui se donne. Je raconte des fois l'histoire d'une amie qui a été missionnaire au Liban et qui a eu une fille qui avait une... Elle a écrit un livre d'ailleurs, « La vie est un souffle », Agnès Sanders, vous connaissez peut-être. Elle avait une fille qui avait une trachéomalacie, c'est-à-dire la trachée toute molle à la naissance, elle ne pouvait pas respirer, avec des grosses anomalies, elle avait qu'un seul poumon, des grosses anomalies des vaisseaux du cœur, et tous les enfants qui ont eu cette anomalie sont tous morts dans la littérature scientifique mondiale, ils sont tous morts dans la première année de leur vie. Et elle faisait partie d'un groupe, d'une assemblée qui priait pour cet enfant. Et comme les autres enfants, à l'âge de 3 mois, il a été hospitalisé dans un état de détresse respiratoire. Et il a fait des arrêts cardio-circulatoires plusieurs fois. Et chaque fois, il y avait quelqu'un qui était là pour le réanimer. Et il est resté de l'âge de 3 mois, c'est une petite fille, jusqu'à 1 an en réanimation. Vous imaginez, 9 mois en réanimation. Et à l'âge de 1 an, elle a pu retourner à la maison avec un trou de trachéotomie. Et cet enfant devait être aspiré pratiquement toutes les heures, jour et nuit. Et heureusement que ces chrétiens, ils ont eu de l'aide aussi physique, pratique d'autres chrétiens. Vous savez, c'est pas facile. De l'âge de 1 an jusqu'à 8 ans, elle a dû être aspirée tout le temps. Et à 8 ans, on a pu refermer le trou de trachéotomie. Je vous ai dit que tous les autres enfants étaient morts à 1 an. La prière a agi. Il y a eu la prière, mais il y a eu le combat de l'homme. L'aide des chrétiens. Je crois que souvent on oublie, on demande à Dieu de faire tout et nous, on ne fait rien. Mais à 8 ans, ils ont pu refermer cela. Elle a une scolarité normale, elle a fait des études, elle est devenue institutrice. Et maintenant, elle a 2 enfants et elle est missionnaire au Maroc. Vous voyez la grâce de Dieu. Hein? Que Dieu, parce qu'elle a grandi, sa trachée a grandi avec et maintenant elle respire normalement. Mais il y a eu des combats. Hein? Et dans notre vie, il y a eu aussi des combats avec la maladie de mon épouse. Et on a vu l'intervention de Dieu, la grâce de Dieu, mais on a vu aussi la main de l'homme qui a dû aussi, elle a dû être opérée 2 fois, cœur ouvert. Et je crois que c'est important, hein, d'aimer pas seulement en théorie, mais d'aimer ceux qui souffrent. Et à travers cela, on devient plus solidaire, on apprend ce que c'est que l'amour de Christ, comment il nous a aimés nous-mêmes. Il nous délivre de nous-mêmes, de notre égoïsme. Nous avons été créés pour prendre soin des autres. Nous devons être sensibles aux besoins des autres. Jésus dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, vous m'avez visité. dans l'église primitive, il est dit qu'ils avaient tout en commun, pas seulement les biens matériels, mais les luttes, les combats. Ils s'aidaient les uns les autres. La Bible nous dit dans Hébreux 13, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité. Ou dans 1 Corinthiens 12, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Est-ce que nous voulons prendre cet engagement d'aimer ? Vous savez, j'avais entendu dans un congrès des statistiques, un congrès chrétien de soignants, des statistiques qui parlaient des églises où il y avait le plus de résultats concernant la santé et la guérison. Et c'était pas forcément les églises qui parlaient le plus de la guérison. C'était les églises où il y avait le plus d'amour. D'amour véritable, où se soutenaient les uns les autres. Lors de nos assemblées chrétiennes, l'atmosphère d'amitié, la chaleur, l'atmosphère de confiance, de partage, de spontanéité, de simplicité, s'inscrit profondément dans le cœur de ceux qui viennent. Et c'est presque, je dirais, c'est en tout cas presque aussi important que le contenu des messages. La chaleur, l'amour qu'on peut dégager autour de nous. Nous devons mettre l'amour de Dieu et des personnes au-dessus de toutes les considérations de forme, de culte. Bien des personnes ont été blessées dans les communautés chrétiennes. Alors, ne jugeons pas trop vite nos frères, hein. Prenons exemple sur Jésus qui chemine avec les pèlerins d'Emmaüs. Il doutait de ce qu'il leur avait dit, il ne les a pas repris, mais il s'est révélé à eux avec amour et progressivement. Jésus n'a pas condamné Jean-Baptiste qui doutait. Vous savez, dans la souffrance, on peut parfois douter. Jean-Baptiste, vous lirez ça dans Luc, au chapitre 7, verset 18, verset 26 à 27, Jean-Baptiste avait vu le ciel ouvert. Il avait vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Il avait entendu la voix de Dieu. Il avait reconnu que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis, lorsqu'il est en prison, on va lui couper la tête en prison. Hein ? Lorsqu'il est en prison, il dit, mais est-ce que c'était lui ? Est-ce qu'il ne m'a pas abandonné? Est-ce que c'était lui qui devait venir? Est-ce que nous devons en attendre un autre? Et il envoie des disciples pour poser la question à Jésus. Est-ce que tu ne m'aurais pas abandonné? Et Jésus lui fait dire à ses disciples que les morts ressuscitent, qu'il se passe des choses, qu'il est vraiment le Messie. Qu'il ne l'a pas abandonné dans sa souffrance. Et malgré cela, on va lui couper la tête. Hein. Par la foi, certains ne sont pas sortis des prisons, et par la foi, d'autres sont sortis. Ils avaient la même foi. Ça, c'est un mystère. Et Jésus, dans Luc 7, dit « Parmi tous les hommes qui sont nés de femmes sur cette terre, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. » Malgré ses doutes, malgré qu'il ne soit pas sorti de sa prison, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Moi, ça m'encourage, ces paroles de Dieu. Toute personne qui souffre a droit à l'amour et à la compassion, c'est ce que dit Job. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même s'il a abandonné la crainte du Tout-Puissant. Jésus nous a donné l'exemple de la compassion jusqu'au bout. Sur la croix, il a eu compassion de cet homme qui s'est repenti, du brigand repentant. La foi, c'est pas l'absence de doute, c'est la victoire sur nos doutes. Nous devons apprendre à comprendre et accompagner ceux qui souffrent, ceux qui sont découragés, ceux qui sont dans le deuil. C'est pas la peine de leur dire, il faut pas pleurer, hein. Ils peuvent accepter de ressentir la perte. Nous pouvons les rassurer, leur dire que c'est normal, que Dieu nous a créés avec la capacité de pleurer. Je crois que Dieu expérimente lui-même toute la gamme de nos émotions. Il a expérimenté la tristesse. Jésus a connu la tristesse, mais sans commettre le péché. Les psychologues vous diront que c'est pas bon de refouler ses émotions. Il faut admettre ses désappointements. Il faut admettre s'il y a des doutes, les dire à Dieu. Comme dans les psaumes, on dit à Dieu tout ce qui se passe dans notre cœur. Néhémie était attristé à cause des ruines de Jérusalem. Et il jeûne et il prie. Ézéchiel a observé aussi son deuil en privé, dans le silence, devant Dieu. Je crois que si nous voulons aussi accompagner les autres, nous devons aussi apprendre à ne pas nous négliger nous-mêmes pour aider les autres. La Bible dit « Vous valez plus que les oiseaux du ciel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour saint de soi n'est pas l'égocentrisme. C'est reconnaître que j'ai du prix. Je suis le temple de Dieu, que Dieu m'aime. Il faut que nous apprenions à être délivrés de la tyrannie de l'urgence. Prendre du temps seul avec Dieu pour se ressourcer. Nous allons le voir tout à l'heure lorsqu'on parlera de la souffrance mentale. Reconnaître ses limitations, ne pas aller au-delà. Être bon avec soi-même et ne pas se juger plus sévèrement que Dieu le ferait. Donc apprenons à porter les fardeaux les uns des autres. Attention aussi dans notre relation avec les autres à ne pas vouloir les dominer, les manipuler, les contrôler. Attention aussi à la curiosité. Attention à vouloir, ne pas vouloir essayer de soigner le monde entier, de résoudre les problèmes du monde entier. Jésus a rencontré des gens qui ne voulaient pas le suivre, il ne leur a pas couru après en insistant, en leur disant « il faut te repentir » et il les a laissés partir. Comme le jeune homme riche, il lui a dit la vérité qu'il avait besoin d'entendre et il l'a laissé partir. Attention de ne pas s'occuper de trop de personnes en même temps, d'accompagner plus longtemps que nécessaire. Quand Philippe rencontre l'Éthiopien dans les Actes au chapitre 8, il lui annonce la bonne nouvelle, il a compris le baptême, il reçoit le Seigneur dans son cœur, le Saint-Esprit dans sa vie, et le Saint-Esprit enlève Philippe et il repart seul avec Jésus. Attention de ne pas oublier notre famille. Jésus dit, si quelqu'un n'a pas soin principalement de sa famille, alors il est pire qu'un infidèle. Soyons à l'écoute de Dieu et faisons ce qu'il nous demande, ni plus ni moins. Cherchons aussi le soutien spirituel de notre église, d'un groupe, d'une personne. Nous avons besoin de nous épauler les uns les autres. Et quand il y a des difficultés dans une famille, dans une église, nous devons apprendre à nous épauler et nous allons grandir dans la patience. La communauté chrétienne devrait être une famille, un lieu de guérison, de compassion, d'ouverture aux besoins des autres, de grâce, de disponibilité, d'accueil, de discrétion, d'écoute, de confiance, de dialogue, de solidarité. Une église soignante désire amener ses membres à la maturité. Et il y a souvent dans les églises de grandes souffrances qui ne sont pas partagées et on donne l'impression d'être des bons chrétiens qui n'ont jamais de problème. Mais pour pouvoir parler, il faut se sentir aimé. Quand on a confiance, alors on ouvre son cœur. Je citais cette semaine ce passage de Éphésiens 3:17 « Soyez enracinés dans l'amour pour connaître. Dans la mesure où j'aime mes malades vont parler de leurs vrais problèmes. » Parce que souvent les gens viennent avec des symptômes, mais ils ne parlent pas de leurs vrais problèmes intérieurs. Aimer, c'est écouter, c'est donner du temps de sa personne, de ses connaissances, aider, secourir, réconforter, prier, consoler, avoir plus d'intérêt pour la personne que pour sa maladie. Nous devons sortir de notre solitude et nous encourager les uns les autres. Nous avons besoin de plus de transparence, plus de simplicité, d'humilité, de confiance les uns aux autres pour parler de nos vrais problèmes. Jésus, enfin, dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 34 dit « Je chercherai la brebis qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. » Alors, un autre point, c'est que la souffrance peut être pédagogique. Nous sommes dans un monde où il y a bien des dangers. Les catastrophes instruisent les survivants sur les moyens de les prévenir, de les éviter. Un enfant qui met sa main sur le feu, qui se brûle, il apprend à faire attention, qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec son environnement. Nous apprécions les océans, et pourtant bien des personnes s'y sont noyées. Le soleil, nous aimons quand il y a du soleil, mais le soleil peut aussi nous brûler. Les plaques tectoniques, paraît-il qu'elles sont uniques et caractéristiques de la planète Terre. Elles provoquent des tremblements de terre, mais elles sont aussi nécessaires à la formation des continents et des chaînes de montagnes. Elles montent comme ça, hein ? À l'équilibre et à la variété des climats, à la biodiversité, à la vie actuelle. Sans ces plaques tectoniques, la Terre serait submergée par les eaux et il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Il n'y aurait que des poissons. La création tout entière a été affectée par le mal. Mais Dieu promet de recréer un nouvel univers où la perfection sera éternelle. Dieu veut nous faire participer aussi à notre santé physique et mentale. La bonne nouvelle pour le chrétien, c'est que Jésus est là tous les jours avec nous et qu'il peut nous secourir, qu'il peut nous secourir. Nous pouvons le réveiller quand nous sommes dans la tempête, dans la détresse. Si Dieu permet des épreuves, des souffrances, le mal, rappelons-nous aussi qu'il est celui qui fait grâce aux humbles, qui compatit, qui souffre avec nous, ça veut dire, qui apaise les tempêtes, qui console, qui guérit, délivre. Dieu n'est pas loin de nous. La véritable consolation, c'est la présence de Dieu. Heureux ceux qui pleurent et qui cherchent les vraies consolations, c'est ça le message paradoxal de Jésus, parce qu'ils seront consolés. Dieu ne fait pas d'erreur dans tout ce qu'il permet dans notre vie. Il contrôle tout. Tout lui appartient. Il a un but, un sens dans tout ce qu'il permet. Il y a un plan pour chacune de nos vies. Pas un moineau ne tombe à terre sans ma volonté. Et Dieu désire, à travers la souffrance, créer une relation avec nous, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Il voudrait parfois nous conduire dans l'épreuve au désert pour que nous puissions le rencontrer. C'est à travers nos besoins que Dieu crée une relation plus profonde avec nous. Il a des priorités. Nous voudrions être guéris de nos maladies, mais Dieu voudrait déjà nous guérir du péché, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Je suis l'Éternel qui pardonne le péché, qui guérit les maladies. En Malachie 4, pour ceux qui craignent mon nom, se lèvera le soleil de la justice, la justification. Et ensuite la guérison sera sous ses ailes. Le plan de Dieu, c'est de nous délivrer du péché, du mal. Sa priorité, c'est notre croissance spirituelle, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Dieu se sert de l'épreuve, il se sert de l'ennemi comme d'un allié, un instrument qui travaille pour le but de Dieu. Mais Dieu, à travers cela, nous transforme, c'est lui, c'est sa grâce qui nous transforme. Il nous demande de positionner notre foi comme les aigles. Hein. Dans Ésaïe 40, il est dit « Pour ceux qui se confient, ils sont comme l'aigle. Ils renouvellent leur force. » L'aigle positionne ses ailes d'une certaine manière pour s'élever au-dessus des tempêtes. Et Dieu nous façonne. Je raconte aussi parfois l'histoire de ce forgeron qui avait connu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et il parlait toujours de l'amour de Dieu. Et quelqu'un lui a dit, mais comment tu peux parler de l'amour de Dieu avec tout ce que tu as vécu comme drame et problème dans ta vie? Et cet homme a dit, moi quand je veux faire un instrument utile, alors je fais passer par le feu. Jusqu'à ce qu'il devienne rouge et même blanc. Puis après je lui donne des coups de marteau pour qu'il prenne la forme que je voudrais. Et puis après s'il n'a pas la bonne forme, on le remet dans le feu. Dieu voudrait transformer notre être intérieur à l'image de Jésus-Christ. Dieu n'a pas délivré Étienne, dont je parlais tout à l'heure, mais dans sa mort, il était semblable à Jésus-Christ. Le plan de Dieu, sa priorité, c'est de nous transformer. L'apôtre Paul a prié à plus de 3 reprises pour être délivré d'une écharpe dans la chair, et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Une autre femme avait posé cette question à quelqu'un qui faisait de l'or, qui faisait fondre de l'or, et puis elle demandait à ce fondeur « Quand est-ce que vous arrêtez le feu sous l'or ?» Elle lui a dit « J'arrête le feu quand je vois mon image se refléter sur le métal. » Dieu voudrait nous recréer à son image. Et l'image parfaite, c'est Jésus-Christ. Voilà, je vais m'arrêter. Si vous avez quelques questions concernant, je vais parler après du stress, de l'angoisse, c'était plutôt des généralités sur la souffrance et sur le sens de la souffrance. Si vous avez des choses à partager ou des questions, j'ai essayé de soulever quelques questions. Bien sûr, je n'ai pas répondu à toutes les questions. On parlera tout à l'heure plus du stress, de l'angoisse, de la dépression et de ce que la Bible propose dans tout cela, de manière plus personnelle. Là, c'était plus des généralités. Parce que c'est une question, beaucoup de gens se réfugient, ils disent, s'il y avait un Dieu qui nous aime, il n'y aurait pas toutes ces souffrances, et puis, alors il n'y a pas de Dieu, et puis on se révolte, et chaque fois qu'il y a un problème, on accuse quand même Dieu, même s'il n'existe pas. Peut-être vous avez noté des questions au cours de mon exposé. J'avais 40 pages sur mon ordinateur, j'ai essayé de les résumer en 6 pages. Et puis, mes 6 pages, là j'ai encore dû les résumer parce qu'autrement ça aurait été un peu trop long. C'est difficile de vouloir tout dire, hein, mais de toute façon on n'aura jamais fini de tout dire.